3. J'appelais papa pour le mettre au courant pendant que je revenais devant la maison en espérant que personne ne m'avait volé mon sac à dos. Non seulement il était toujours là, mais un des ambulanciers avait pris le temps de le déposer de l'autre côté du portillon. Papa me demanda s'il pouvait faire quelque chose. « Non, » répondis-je. « J'allais rester sur place et faire mes devoirs jusqu'à ce qu'il soit l'heure de nourrir Radar. Je rentrerai ensuite. » Il dit qu'il rapporterait du chinois. On se retrouverait à la maison. « Je t'aime, » ajoutai-je. « Moi et tout, » dit-il. Je sortis mon antivol de mon sac à dos et envisageais de faire passer mon chevin de l'autre côté de la clôture. Et puis merde, je me contentais de l'attacher au portillon. En reculant, je faillis trébucher sur Radar. Elle aboya et s'enfuit. « Désolé, ma vieille !» Je m'agenouillai et tendis la main. Après quelques secondes, elle s'en approcha. La renifla et lui donna un petit coup de langue. « Cujo, le terrible, tu parles !» Je retournai derrière la maison, suivi de près par Radar, et c'est là que je remarquai la construction extérieure. Une cabane à outils, supposais-je. Pas assez large pour accueillir une voiture. J'envisageais d'y ranger l'échelle couchée dans l'herbe, puis décidai de ne pas me donner cette peine, étant donné qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Comme je le découvris plus tard, je l'aurais trimballé sur 40 mètres pour rien, car le cabanon était fermé par un énorme cadenas, et M. Bodditch avait emporté les autres clés. J'ouvris la porte, et on entra dans la maison. J'actionnai un interrupteur à l'ancienne, ce qu'on tourne, et j'empruntai le musée des vieux papiers jusqu'à la cuisine. La lumière provenait d'un plafonnier en verre dépoli qui semblait sorti d'un décor de vieux films comme ceux que papa regardait sur TCM. Une toile cirée à carreaux, usée mais propre, recouvrait la table. Je songeais que tout dans cette cuisine ressemblait au décor d'un vieux film. J'imaginais Mr. Chips entrant d'un pas nonchalant avec sa toge et sa toque de prof, ou bien Barbara Stanwyck disant à Dick Powell qu'il arrivait juste à temps pour boire un verre. Je m'assis à table. Radar se glissa dessous et se coucha en émettant un petit grognement très distingué. Je lui dis qu'elle était une gentille fille et elle frappa le sol avec sa queue. « Ne t'inquiète pas, il va bientôt rentrer. Peut-être. » J'étalais mes livres devant moi. Fis quelques exercices de maths, après quoi je mis mes earpods dans mes oreilles pour écouter mon devoir de français du lendemain, une chanson pop intitulée « Rien qu'une fois ». Ce n'était pas vraiment ma tasse de thé, je suis plutôt rock classique, mais c'était une de ces chansons qu'on aime de plus en plus à chaque écoute, jusqu'à ce qu'elle nous trotte dans la tête toute la journée et qu'on finisse par la détester. Je la passais en entier 3 fois, puis essayais de chanter par-dessus les paroles, comme la prof nous l'avait demandé. « Je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendue. » En jetant un coup d'œil sous la table, je vis que Radar me regardait. Elle avait les oreilles plaquées en arrière, et je crus percevoir de la pitié dans ses yeux. Cela me fit rire. « Je ne dois pas me lancer dans la chanson, hein ?» Un coup de queue. « Je n'y suis pour rien, c'est un devoir. Tu veux écouter la chanson encore une fois ? Non, moi non plus. » J'avisai 4 boîtes en fer assorties, alignées sur le plan de travail à gauche de la cuisinière. Dessus était écrit « sucre, farine, café et biscuits ». J'avais la dalle. Chez moi, j'aurais dévalisé la moitié du frigo. Mais évidemment, je n'étais pas chez moi. Et je n'y serais pas avant... Je consultais ma montre. 1 heure encore. Alors je décidai de voir ce que contenait la boîte à biscuits. On ne pouvait pas appeler ça fouiller. Elle était remplie à ras-bord d'un mélange de sablé aux noix de pécan et de guimauve enrobée de chocolat. Je me dis qu'étant donné que je faisais du dog-sitting, M. Bodditch ne me reprocherait pas de manger un biscuit. Ni 2. Ni même 4. Je m'obligeais à m'arrêter là, mais j'eus du mal. Ces sablés étaient vraiment délicieux. En regardant la boîte de farine, je repensais à M. Bodditch disant qu'elle contenait de l'argent. Puis son regard était devenu plus perçant. « Oublie ce que j'ai dit. La boîte de farine est vide. Je ne m'en souvenais plus. » Je faillis soulever le couvercle et fut un temps, pas si lointain, où je l'aurais fait, mais cette époque était révolue. Je me rassis et ouvris mon livre d'histoire. J'épluchais péniblement un texte ardu consacré au traité de Versailles et aux réparations allemandes. Et quand je regardais ma montre de nouveau, il y avait une pendule au-dessus de l'évier, mais elle était arrêtée. Il était 6h moins le quart. Estimant avoir terminé ma journée, je décidai de nourrir Radar. Je supposais que la porte à côté du frigo était celle du cellier, et j'avais vu juste. Il y régnait cette bonne odeur caractéristique. Je tirai sur le cordon électrique qui pendait du plafond pour allumer la lumière, et pendant un instant, j'en oubliai de donner à manger à Radar. Cette petite pièce était remplie du sol au plafond et d'un mur à l'autre de boîtes de conserves et de denrées non périssables. Il y avait du corned beef et des haricots à la sauce tomate, des sardines et des soupes Campbell's, des paquets de crackers et de pâtes, de la sauce pour les pâtes, des bouteilles de jus de raisin et de cranberry, des bocaux de confiture et de jelly, des bocaux de légumes par dizaines, peut-être même par centaines. Monsieur Boditch était paré pour l'apocalypse. Radar émit un gémissement qui signifiait « N'oublie pas le chien ». Je regardais derrière la porte, là où se trouvait le seau de croquettes. Plein, il devait contenir une 40aine de litres, mais on voyait presque le fond. Si Monsieur Boditch restait à l'hôpital plusieurs jours ou une semaine, je serais obligé d'en acheter. Le gobelet doseur était dans le seau. Je le remplis et versai les croquettes dans la gamelle qui portait le nom de la chienne. Elle s'en approcha d'un air déterminé, en remuant lentement la queue. Malgré son grand âge, elle prenait toujours plaisir à manger. C'était bon signe, supposais-je. « Tout va bien, » lui dis-je en enfilant mon blouson. « Sois sage, il y a demain matin. » Elle n'eut pas à attendre aussi longtemps. 4. Papa et moi, on se goinfra de plats chinois pendant que je lui racontais par le menu mon aventure de l'après-midi, la découverte de Monsieur Boditch couché sur les marches, la traversée du musée des vieux papiers, pour finir par le cellier de l'Apocalypse.
« On appelle ça des écureuils, » m'apprit papa. « J'ai connu ça dans ma carrière, surtout après le décès de l'écureuil en question.
Mais tu dis que la maison est propre ?»«
Oui, la cuisine en tout cas. » Une place pour chaque chose à sa place. Il y avait de la poussière sur les flacons de médicaments dans la minuscule salle de bain, mais je n'en ai pas vu ailleurs.
Pas de voiture ?
Non, et le cabanon n'est pas assez grand.
Il doit se faire livrer. Et puis il y a toujours Amazon, évidemment, qui deviendra en 2040 le gouvernement mondial dont l'extrême droite a si peur. Je me demande d'où vient son argent et combien il lui reste.
Je m'étais posé la question aussi. Une curiosité tout à fait normale, pensais-je, de la part de personnes qui ont failli se retrouver à la rue. Papa se leva.
Bon, j'ai acheté et rapporté à manger. Maintenant, j'ai de la paperasse à remplir. Tu débarrasses ?
Ce que je fis. Après quoi, je travaillais quelques morceaux de blues sur ma guitare. Je pouvais jouer quasiment n'importe quoi du moment que c'était en mi. Généralement, j'étais capable de m'absorber dans la musique jusqu'à en avoir mal aux doigts. Mais pas ce soir-là. Je rangeai ma Yamaha dans son coin et annonçai à papa que je retournais chez M. Boditch pour voir si Radar allait bien. Je l'imaginais seul là-bas. Peut-être que les chiens se fichent de ce genre de choses, mais peut-être pas.
« Très bien, » dit-il, « mais tu ne le ramènes pas à la maison. »«
Là, » corrigeai-je.
« Il ou elle, je n'ai pas envie d'entendre un chien abandonné hurler à 3h du matin. »
« Je ne la ramènerai pas. » Il n'avait pas besoin de savoir que cette idée m'avait traversé l'esprit.
« Et méfie-toi de Norman Bates !»
Je le regardais, étonné.
« Quoi ? » fit-il. « Tu croyais que je ne savais pas ?»
Il affichait un large sourire.
« Les gens la surnommaient la maison de psychose bien avant que vous soyez nés. Tes copains et toi, mon petit gars. »
5. Cela m'avait fait sourire, moi aussi, mais en arrivant à l'intersection de Pine et de Sycamore, je trouvais ça moins amusant. Perché au sommet de la colline, la maison semblait masquer les étoiles. J'entendais Norman Bates s'écrier « Mère, tout ce sang !» et je regrettais d'avoir vu ce satané film. Au moins, le verrou du portillon s'ouvrit plus facilement. J'utilisais la lumière de mon portable pour contourner la maison. Je promenais le faisceau lumineux sur le côté, et là aussi je le regrettais. Les fenêtres étaient poussiéreuses, les stores baissés.
On aurait dit des yeux aveugles qui observaient malgré tout cet intrus indésirable. Je tournais au coin, et au moment où je me dirigeais vers la véranda de derrière, un bruit sourd me fit sursauter. Je laissai échapper mon portable. Je vis une ombre bouger dans l'obscurité. Je ne criais pas, mais je sentis mes boules se ratatiner contre mon scrotum. Je me figeai en regardant cette ombre ondoyer vers moi, et avant que je puisse décamper, Radar frotta sa truffe contre ma jambe de pantalon en gémissant et essaya de me sauter dessus. Mais à cause de son dos et de ses hanches en piteux état, elle ne put esquisser que quelques bonds. Le bruit sourd que j'avais entendu, ce devait être le battant de la chatière qui se refermait. Je m'agenouillais pour l'attraper, lui caressais la tête d'une main et lui grattais le cou de l'autre. Elle me lécha le visage et se plaqua contre moi, manquant de me faire tomber à la renverse. « Tout va bien. Tu avais peur d'être seule, je parie. » Depuis quand n'était-elle pas restée seule si M. Bowditch n'avait pas de voiture et s'il se faisait livrer ses courses? Très longtemps, sans doute. « Tout va bien, » répétai-je. « Viens. » Je ramassai mon téléphone, attendis que mes boules retrouvent leur place et me dirigeai vers la porte de derrière. Radar marchait si près de moi que sa truffe cognait contre mon mollet. Jadis, Andy Chen s'était retrouvé face à un chien monstrueux dans ce jardin, affirmait-il. C'était il y a fort longtemps. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une vieille dame effrayée qui avait jailli par la chatière pour m'accueillir en m'entendant arriver. On gravit les marches de la véranda. J'ouvris la porte avec la clé argentée et actionnai le vieil interrupteur pour éclairer le musée des vieux papiers. J'examinai la chatière. Il y avait trois petits verrous, deux sur le côté et un en haut. Il faudrait que je pense à les fermer avant de partir pour empêcher Radar de se sauver. Le jardin de derrière était sans doute clôturé, comme celui de devant, mais je n'en étais pas certain. Et pour l'instant, la chienne se trouvait sous ma responsabilité. Dans la cuisine, je m'agenouillai de nouveau devant Radar et pris sa tête entre mes mains. Elle me regardait fixement, oreilles dressées. « Je ne peux pas rester, mais je te laisserai une lumière, et je reviendrai demain matin pour te nourrir, d'accord ?» Elle gémit, me lécha la main et s'approcha de sa gamelle, vide. Elle la lécha et me regarda. Le message était clair. « Non, il faut attendre demain matin. » Elle posa sa truffe sur ses pattes jointes, sans cesser de me regarder. « Bon, j'ouvris la boîte, portant l'inscription « Biscuit ». Monsieur Bowditch avait bien dit « Pas de viande, pas de cochonnerie, mais peut-être qu'il voulait parler de cochonnerie avec de la viande », décrétai-je. « La sémantique est une chose merveilleuse, non ?» Je me souvenais vaguement d'avoir entendu dire, ou lu quelque part, que les chiens étaient allergiques au chocolat. Alors je pris un sablé aux noix de pécan et j'en cassai un petit morceau, que je lui tendis. Elle le renifla et le prit délicatement dans sa gueule. Je m'assis à la table où j'avais fait mes devoirs en songeant que je devrais m'en aller. C'était une chienne, bon sang, pas un enfant. Elle ne risquait pas d'ouvrir le placard sous l'évier pour boire de l'eau de Javel. Mon téléphone sonna. C'était mon père.
« Tout va bien là-bas ? » ?
« Oui, très bien. Mais heureusement que je suis revenu. J'avais laissé la chatière ouverte. La chienne est sortie de la maison quand elle m'a entendu. » Inutile de préciser qu'en voyant son ombre bouger, j'avais eu la vision fugitive de Janet Leigh sous la douche essayant d'échapper au coup de couteau.
« Ce n'est pas ta faute, Charlie. Tu ne peux pas penser à tout. Tu rentres ?»«
Oui, bientôt. » Je regardais Radar qui me regardait.
« Papa, peut-être que je... »«
Mauvaise idée. Tu as cours demain. Et c'est une chienne adulte. Elle peut passer une nuit seule. » »«
Oui, je sais. » Radar se leva. Un spectacle un peu douloureux. Ayant réussi à se remettre sur ses quatre pattes, elle disparut dans l'obscurité de ce qui était certainement le salon.
« Je reste encore quelques minutes. C'est une gentille chienne. »«
Ok. »
En coupant la communication, j'entendis un léger couinement. Radar revint en tenant un jouet dans sa gueule. Je crus reconnaître un singe, mais il était tellement mâchonné que c'était difficile à dire. Comme j'avais encore mon portable à la main, je la pris en photo. Elle déposa son jouet au pied de ma chaise. Ses yeux m'indiquaient ce que j'étais censé faire. Je le ramassai et le lançai à travers la cuisine, en cloche.
Radar alla le chercher en clopinant, le prit dans sa gueule, le fit couiner deux ou trois fois pour montrer qui commandait, et me le rapporta. Elle le laissa tomber à mes pieds. Je l'imaginais, plus jeune, plus massive, et beaucoup plus agile également, se jetant avec fougue sur ce pauvre singe, ou son prédécesseur, comme elle s'était jetée sur Andy ce jour-là, disait-il. L'époque des cavalcades était révolue, mais elle faisait de son mieux. Elle devait se dire « Regarde comme j'assure, reste avec moi, je peux jouer toute la nuit. » Malheureusement, non. Et de toute façon, je ne pouvais pas rester. Papa voulait que je rentre à la maison. Et si je restais ici, je craignais de mal dormir. Il y avait trop de craquements et de grincements mystérieux, trop de pièces dans lesquelles n'importe quoi pouvait se cacher et s'approcher de moi à pas feutrer une fois les lumières éteintes. Radar me rapporta le singe couineur encore une fois. « Non, terminé !» dis-je. « Repousse-toi, ma vieille. » Alors que je me dirigeais vers le couloir du fond, une idée me vint. Je me rendis dans la pièce obscure où Radar avait trouvé son jouet et cherchai à tâtons l'interrupteur en espérant que rien ni personne, la mère momifiée de Norman Bates par exemple, n'allait m'agripper la main. L'interrupteur produisit un claquement lorsque je le trouvai enfin et l'actionnai. À l'image de la cuisine, le salon de M. Bowditch datait d'une autre époque, mais il était propre. Il y avait un canapé recouvert de tissu marron. J'avais le sentiment qu'il ne servait pas beaucoup, contrairement au gros fauteuil, posé lourdement au milieu d'un tapis démodé. Je voyais l'empreinte des mollets décharnés de M. Bowditch. Une chemise en chambray bleu était posée à cheval sur le dossier. Le fauteuil faisait face à un téléviseur préhistorique, surmonté d'une antenne. Je le photographiais avec mon téléphone. Je ne savais pas si une télé aussi ancienne pouvait fonctionner, mais à en juger par tous les livres empilés de chaque côté, dont beaucoup marqués par des post-it, j'en déduisis que, même s'il fonctionnait, il n'était pas souvent allumé. Dans le coin le plus éloigné, un panier en osier débordait de jouets pour chiens, et cela en disait long sur l'amour que M. Bowditch portait à sa chienne. Celle-ci traversa la pièce d'un pas lent pour aller chercher un lapin en peluche qu'elle m'apporta d'un air plein d'espoir. « Je ne peux pas, » dis-je, « mais je peux te donner ça. Elle porte sûrement l'odeur de ton maître. » Je pris la chemise sur le dossier du fauteuil et l'étalai sur le sol de la cuisine, à côté de la gamelle. Radar la renifla et se coucha dessus. « Bravo, fifille !» En marchant vers la porte de derrière, je me ravisais et allais rechercher le singe. Elle mordilla un peu, juste pour me faire plaisir, peut-être. Je reculais de quelques pas et pris une autre photo avec mon téléphone. Après quoi, je m'en allais, sans oublier de verrouiller la chatière. Si elle faisait ses besoins à l'intérieur, je serais obligé de nettoyer. Sur le chemin du retour, je pensais aux gouttières sans doute obstruées par les feuilles, aux mauvaises herbes dans le jardin. La maison avait besoin d'un bon coup de peinture. Ce n'était pas dans mes cordes, mais je pouvais faire quelque chose pour les fenêtres sales, sans oublier la clôture affaissée. Si j'avais le temps, évidemment. Mais la saison de baseball allait commencer, alors je ne l'avais pas. Et puis, il y avait Radar. Cela avait été un coup de foudre. Pour elle, autant que pour moi, peut-être. Si vous trouvez ça bizarre, ou cuculapraline, ou les deux, tout ce que je peux vous répondre, c'est « faites-vous une raison ». Comme je l'avais dit à mon père, c'était une gentille chienne. Ce soir-là, avant de dormir, je mis mon réveil à sonner à 5 heures. Puis, j'envoyai un texto à M. Neuville, mon prof d'anglais, pour l'informer que je n'assisterais pas au premier cours et lui demander de prévenir Mme Friedlander que je risquais de louper le deuxième cours également. Je devais aller voir un gars à l'hôpital.